MDM, plus proche de chez vous.
Il est bien ton bouquin. Casse pas des briques. Mais le tien. Je comprends rien.
Ça veut dire quoi? C'est un livre sur le rapport entre les femmes et les animaux?
Ça veut dire exactement ce que ça veut dire. C'est un livre qui parle du rapport qui peut exister entre un animal d'une part et une femme d'autre part.
Vous avez vraiment une écriture. Pourquoi vivez-vous comme un clochard?
Mais je suis un clochard. Qu'est-ce que vous attendez de moi? Vous voulez que je chante les souffrances de la grande bourgeoisie? Connerie.
Ça vous surprendra sans doute, mais elle souffre aussi.
Oh. Doucement, petite. Personne ne souffre autant que les pauvres.
Librairie Social Club, le rendez-vous des livres, des gens qui les écrivent, les gens qui les lisent, les gens qui les éditent aussi. Bonjour Anthony Clément.
Bonjour, bonjour les auditeurs, auditrices.
Au départ, il était question de parler de ce livre, La caresse des arbres de Gilles Kerlock. Je feuillette et la première chose que je vois dessus, c'est justement marqué Librairie Social Club, directeur d'édition, parution, publication Anthony Clément. Vous pouvez m'expliquer?
Alors, c'est vrai que les rendez-vous du jeudi sont ceux généralement des librairies, Caractère et La Louve pour les chroniques, et c'est toujours un plaisir. Mais là, voilà, depuis des années, l'association Librairie Social Club, enfantée par Caractère, est greffée sur les deux librairies, qui normalement, enfin pas normalement, s'occupe déjà de la coprogrammation, mais aussi d'ateliers pédagogiques, d'ateliers graphiques aussi, avec des prestations diverses et variées, mais avait... en latence, en germination, la maison d'édition, pour plein de raisons qu'on pourra expliquer peut-être une autre fois, mais bon, qui sont liées évidemment à notre profil et à mon profil. Et elle est née. Alors c'est vrai que première année de pandémie, on a créé une librairie, La Louve. Seconde année de pandémie, on a créé une maison d'édition, Librairie Social Club, la maison d'édition. Voilà.
Et c'est une nouvelle étape.
C'est une nouvelle étape, mais c'est en même temps une des sphères de l'association que l'on avait dès le départ mis dans les statuts, qui attendait évidemment déjà une économie, parce qu'il faut une économie pour publier. Que nous, on n'a jamais fait, ça viendra certainement, hein, mais on n'a pas fait la demande de subvention publique ou autre. Et donc, on a pensé notre économie, on a pensé les étapes de l'association. Et là, c'est la quatrième boule, si je puis dire, la quatrième sphère qui s'allume dans l'association Librairie Social Club. Il y en aura d'autres. Et elles sont d'autant plus belles et ambitieuses. Mais voilà, on est... extrêmement content, ravi, touché. C'est une nouvelle aventure et c'est une aventure cohérente.
C'est un système, on va dire, vertueux, puisque le nom de la collection, c'est pas l'arbre, le même nom que le festival que vous avez déjà instauré, voilà, combien d'années ?
Exactement, voilà, 4 ans, même si on a fait que 3 éditions, en raison de la situation sanitaire de ces 2 dernières années. Donc oui, pour faire très très bref, la maison d'édition projette plusieurs collections, et la première, celle qui vient avant les collections romans, poésie, essais et certainement photos, c'est la collection Palarbre, donc liée avec le festival, la collection du mot et de l'arbre, qui est une collection justement pas du tout dogmatique, en ce sens où elle est un peu transgenre. Il y aura autant des formes courtes, de la poésie, des nouvelles, que des formes plus longues, du roman, des récits, comme le premier titre de la collection Palarbre, et certainement de l'illustrer aussi. Voilà, ce qui nous permet de ne pas cantonner la relation du mot et de l'arbre simplement dans un genre, mais dans plusieurs, mais dans une collection, voilà, liée au festival. Et donc l'an dernier, on avait sorti une toute première édition pour la venue de Gilles pour le festival Palarbre. Et cette année, ce sera, je ne peux pas encore le dire, mais bon, il y a une surprise normalement. Voilà, pour le festival, donc au mois de septembre, festival Palarbre.
Le livre s'appelle La caresse des arbres, et en même temps, voilà, pour celles et ceux qui ont jamais mis les pieds encore ici à la librairie Caractère Social Club, voilà, on dirait que le livre a été taillé dans la déco du lieu.
Oui, voilà, pour s'inscrire encore dans cette logique dont je parlais, évidemment le rapport au matériau, à l'arbre, qui donne aussi son logo à la librairie Caractère.
Ici, c'est du bois de funeste passage, enfin du passage de la funeste tempête Klaus qui a été récupéré.
Pour certains, oui, certains troncs et voilà, aménagements de la librairie sont faits avec des arbres tombés pendant les tempêtes dernières, ou le maximum possible avec des scieries du coin. Après, voilà, on n'y arrive pas tout le temps. Ouais. Ça dépend du bois, ça dépend de l'aménagement, ça dépend de plein de choses. Bref, il n'empêche que pour la maison d'édition, on n'avait pas, dès le premier titre, l'envie d'aller faire imprimer en Lituanie ou en Estonie.
Ouais.
Voilà, comme beaucoup, même s'ils estampillent fabriqués en Union européenne.
Ouais.
Voilà, pour voilà, toucher des... Ouais. le but étant voilà, d'honorer les forces, de travailler avec les forces, les imprimeries du territoire. Elles sont limitées, certaines, par leurs moyens de production. Il faut des outils de grande qualité pour pouvoir prétendre aussi à des objets de grande qualité. Mais on a réussi, en faisant collaborer deux imprimeurs, ICN à Orthès et l'imprimerie artisanale à Bayonne, à avoir un livre qui nous ressemble, qui est proche de ce que l'on a envie de faire. Donc on a un papier issu des forêts, évidemment bien traité et protégé, et puis un façonnage, une couverture, une impression, une réalisation, une fabrication qui est sur le territoire, donc entre Orthès et Bayonne, et qui nous revient dans les Landes. Donc ça, c'est voilà, c'était extrêmement important, je pense, pour tous les membres des équipes, et puis pour l'auteur aussi. Voilà. Après, je note une chose qui est très très importante et qui nous rend très fiers aussi, c'est que pour le premier titre, Gilles fait don de ses droits d'auteur à l'association Librairie Sociale Club aussi. Gilles participe beaucoup de la dynamique et sa présence, l'ouverture de la collection Palarbre et le premier titre de la maison d'édition sont aussi liés à sa générosité et à sa volonté.
Eh ben on va retrouver Gilles Kerlock d'ici quelques minutes. On fait une petite pause musicale avec Kurt Weill et on se retrouve juste après. Merci beaucoup, Anthony.
Merci à vous.
One, two, three. Today I walk down the street I used to wander. Yeah, I shook my hand and made myself a bet. There was all these things that I don't think I remember. Hey, how lucky can one man get? I brush my shoes and I hum from the rearview mirror. Brides the admiration in a blind spot of regret. There was all these things that I don't think I remember. Hey, how lucky I can one man get. Today I walk down the street I used to wander. Yeah, scratch my head and lit my cigarette. Well, there was all these things that I don't think I remember. Hey, how lucky can one man get? Today I walked down a street I used to wander. Yeah, shook my hand and made myself a bet. There was all these things that I don't think I remember. Hey, how lucky can one man get? Hey, how lucky can one man get? Hey, how lucky can one man get?
Seconde partie de nos rendez-vous littéraires et lettrés, en compagnie donc de Gilles Kerlock. Gilles, bonjour.
Et bonjour.
Première signature, faut le dire ainsi, donc de la maison d'édition Librairie Social Club et de la collection Palarbre, La Caresse des Arbres. Alors c'est pas une réédition, vous me disiez, c'est une réécriture.
Oui, c'est une réécriture. Il y a une première version de ce livre qui date des années 2016, mais qui était ce qu'elle était, qui était pas forcément satisfaisante, on va dire. Et donc le livre a eu une petite vie. Et effectivement, la rencontre avec Anthony et dans cette nouvelle maison d'édition a fait que ben voilà, le livre est revenu, la Caresse des Arbres est revenu en actualité. Et en fait, ça a été un vrai travail de réécriture, de reformulation, de mise en page, de mise en forme pour le livre qui est là aujourd'hui, en fait.
Ce livre, c'est un récit forestier.
Alors c'est un récit forestier qui est lié en fait à mon amour pour tout ce qui est le domaine de la nature et des arbres et de la forêt. Ce récit, c'est un récit qui évoque des lieux différents, des ambiances, des paysages, des pays. Donc voilà, c'est un parcours.
Un parcours qui nous fait passer donc par les Landes, par la Normandie, par le Pays de Galles, le Pays Basque, les Antilles. Il y a une phrase sans équivoque, en première page, qui est une citation qui fait allusion au con.
Quand je fais des dédicaces souvent sur des salons du livre, on me reproche ouais. Pourquoi un Breton il écrit sur les Landes. Je dis mais oui, mais je suis né dans les Landes, ouais. Donc je suis né, voilà, donc j'ai autant le droit de parler des Landes que n'importe qui. Et puis on parle des endroits qu'on aime, donc ouais. Voilà. Et souvent les gens comprennent pas parce que voilà, ils ont pas la notion des origines.
Ouais. Et vous donc, appelez entre guillemets que Kerlock, si vous appelez voilà. El Hadaoui ou Ndiaye.
C'est ça. Ouais. Et effectivement voilà, donc c'était juste l'anecdote de dire ben voilà, les gens ne comprennent pas et sont plutôt moqueur, et donc je me permets de chantonner Brassens, tout simplement.
Et la citation en question, pour y revenir.
Alors cette citation, en fait, c'est... Oui. Donc je me sens beaucoup moins seul dans la forêt qu'au milieu d'une assemblée de cons. C'est une illustratrice qui a écrit ça, c'est Aurelia Orita, et je m'y retrouve complètement, ça. Ouais. C'est exactement ça. C'est alors, exact.
Je la connais pas, est-ce que c'est... En fait, c'est une personne qui n'existe pas et c'est votre anagramme
non. Parce que... non. Cette Aurelia Orita est une illustratrice qui a écrit plusieurs... Enfin, ouais. qui a illustré plusieurs ouvrages. C'est quelqu'un d'origine japonaise.
Ouais.
Et voilà, c'est...
Parce qu'on jurerait que c'est vous qui l'avez écrit.
J'aurais bien aimé, mais c'est ouais. pas moi. Ouais. Non, c'est exactement ce que je pense.
C'est fuir les cons.
Fuir les cons et se retrouver parmi les arbres, c'est mieux. Ça fait du bien.
Est-ce que c'est un livre? On peut dire que c'est un livre qui se... Alors, c'est évidemment un livre qui se lit, ça, quand même, c'est heureux. Mais c'est un livre qui se respire, un livre qui s'écoute. On est avec vous dans la forêt, on est au milieu des mousses. On est au contact même des arbres. Un livre presque, une relation presque charnelle avec les arbres.
Bah c'est exactement ça. C'est pourquoi déjà le titre La Caresse. Bah en fait La Caresse, c'est parce que la forêt m'apporte du bien-être. Voilà. Je vais dans la forêt quand je suis pas forcément très bien et la forêt me permet de remonter un petit peu le toboggan si vous voulez des émotions. Pourquoi la forêt? Parce qu'effectivement c'est du plaisir, c'est du tactile, c'est du des odeurs, c'est tout ce qui fait qu'on est bien dans une sorte de cocon. Et oui, il y a un peu de sensualité effectivement, mais il y a aussi tout ce que la nature peut évoquer, tout ce qu'elle peut montrer, tout ce qu'elle peut caresser, puisque là, en fait, voilà. Donc, on est dans ce domaine-là, oui, complètement. Oui.
Je parlais de relations charnelles. Il y a même, enfin, c'est pas un aveu, mais il y a une confidence. C'est de s'être déniaisé dans
oui.
la forêt.
Bah oui, forcément. Ouais. Bah, je crois que quel plus beau lieu que la forêt pour faire l'amour. Oui, effectivement. Ouais. Oui, c'est vrai. Ouais. C'est un endroit qui est protecteur, qui permet effectivement d'être libre. C'est la liberté.
Ouais. Rassurez-moi, vous allez dans d'autres endroits, mais non, c'est pas que la forêt, vous êtes...
Joker.
C'est un nom, ça, c'est pas une déviance, mais il y a faire l'amour en forêt, il y a même l'ivresse en forêt, racontez-moi. C'est lors d'une, d'une promenade où vous citez vos amis, qui s'appelle Marc, qui s'appelle Franck, avec lesquels, voilà, vous aventurez en forêt, et puis on imagine à la nuit tombée, on ouvre une boutanche, et ouais. C'est pas la même chose, la forêt, quand on a pris deux ou trois gouttes de gnôle.
Exactement. Non, mais oui, mais ça, c'est pour l'anecdote. Hein. En fait, c'est, la forêt, c'est seul. J'adore la forêt seule pour voilà, et ça se partage aussi. Alors je la partage avec qui? Ben avec des amis forcément. Et quand je pars avec Marc, puisque c'est ce que tu citais, Marc, donc Marc Large, pour pas le nommer, on est parti régulièrement dans le Pays Basque pour aller voir des lieux un peu magiques, un peu magnifiques, et on dort sur place forcément puisque on va pas, voilà, on dort dans une tente, on dort en lisière de forêt. Et qu'est-ce qu'on aime? Bah, on aime bien manger, on aime bien boire, et puis les soirées s'éternisant. Ouais. Pour l'anecdote en particulier, ben voilà, une énorme tempête est tombée, un orage de montagne est tombé, et on avait tellement bu qu'on n'a pas vu les arbres tomber autour de nous. Et on s'est réveillé le matin avec tout un tas de branches collées à la tente, et on s'est demandé qu'est-ce qui s'était passé finalement. Donc ouais. Voilà. Non, c'était juste pour l'anecdote. Voilà.
Ouais. Alors, passer des nuits en forêt, justement, il y a tout cet imaginaire. Qu'est-ce qui se passe la nuit réellement en forêt? Tout, on imagine que tout est décuplé, le moindre craquement peut être terrifiant. Et vous, vous y trouvez clairement du plaisir, en tout cas de la fascination.
Alors, nuit en forêt, déjà, je vais poser une chose très claire, on ne dort pas dans une nuit en forêt, c'est évident. Je veux dire, passer une nuit, ça m'est arrivé plusieurs fois, effectivement, de dormir dans une forêt, mais c'était parce que la situation faisait qu'on était loin d'un lieu où on pouvait dormir, et voilà, on s'est retrouvé à un endroit, et on a dormi là. Alors oui, dormir en forêt, on ne dort pas, c'est évidemment, tous les bruits sont décuplés. Quand on sort du cadre habituel de dormir dans une chambre avec un mur, des murs et un toit, et voilà, ça change tout.
Mais quand vous dormez par exemple au Pays de Galles, ouais. Avec toutes les légendes celtiques, les elfes, la brume, enfin, ça va être à la fois fascinant et un peu flippant.
Ben oui, c'est flippant, bien sûr, c'est flippant. Mais ça fait partie du fun, quoi. Enfin, du voilà. Ouais. C'est-à-dire, c'est quand on est dans un endroit et qu'on l'apprécie à sa juste valeur et qu'on, voilà. Moi, j'aime bien aller au-delà de ce que je fais d'habitude, et dormir en forêt, ça fait partie de ça. Ben voilà, effectivement, oui, on dort pas bien, on a toujours l'imaginaire qui vagabonde, mais c'est de manière assez violente. Et plus on se trouve dans un lieu ancré, avec une histoire et quelque chose comme ça, oui, ben l'imaginaire est encore plus décuplé. Donc, mais voilà, mais c'est pas une fin en soi. C'est un concours de circonstances qui a fait qu'on a dormi, ou que j'ai dormi dans des endroits un peu isolés. Mais voilà, ça fait partie de cette relation étroite avec un lieu qu'on aime. C'est pas forcément le jour, une forêt, c'est aussi la nuit. Mmh. C'est aussi sentir et ressentir la vie de la nuit. La nuit dans une forêt. La nuit, la forêt n'est pas silencieuse, loin de là. Toute une faune vit, et avec son bruit, ses bruits, ses respirations, ses odeurs.
Ses odeurs et ses sons. J'essaye d'imaginer être en forêt, hors de jour comme de nuit, avec une pluie tropicale, comme vous le racontez aux Antilles, où là aussi les sens sont sacrément remués.
Les lieux, effectivement, sont très différents. Les Antilles, y a quelque chose d'énorme là-bas, c'est les couleurs. Cette verdure qui est omniprésente, c'est avec des gammes de verts qui sont fabuleuses, et puis forcément les odeurs. C'est-à-dire, on a une humidité qui est constante dans ces forêts tropicales, et les odeurs sont décuplées, sont très fortes. Et quand on se balade par exemple dans une forêt comme au Pays Basque, forêt d'Irati, et les souvenirs que j'ai des forêts antillaises, mais c'est le jour et la nuit, on va dire ça comme ça. Au niveau des sens, les Antilles, c'est une énorme claque, énorme claque, voilà.
Explosion de couleurs,
de sons, d'odeurs, de toutes ces choses-là. Et l'humidité rajoute justement ce côté fort, en tout cas, dans un lieu comme ça.
Il y a la question de la quête, de la construction, mais aussi de savoir d'où l'on vient. Quand vous allez au Pays de Galles, on a l'impression qu'on est déjà passé par là, peut-être dans une autre vie, qu'on retrouve ces racines celtes.
Oui, effectivement, comme on le disait tout à l'heure, mes origines bretonnes, même si je suis né dans les Landes, mes origines bretonnes sont fortes et sont toujours très ancrées pour moi. J'ai besoin de revenir sur des lieux que j'ai côtoyés plus jeune, donc la Bretagne et le domaine anglo-saxon que j'aime beaucoup. Revenir dans des lieux comme en Bretagne et au Pays de Galles notamment, même si je sais que c'est complètement illusoire, mais j'ai l'impression de connaître ces endroits-là, d'y être bien. C'est-à-dire que quand on est bien dans un lieu, voilà, ça interroge, on se dit, mais pourtant je connais pas, mais j'y suis comme chez moi. Je me sens plus proche, effectivement, de lieux anglo-saxons que des territoires du Sud, par exemple, méditerranéens ou autres. Ouais. Et ce plaisir d'y revenir, justement, si important. C'est-à-dire que j'aime l'Angleterre, j'aime le Pays de Galles, j'aime toutes ces îles anglo-normandes, et j'ai un immense plaisir d'y revenir à chaque fois. Voilà, donc c'est un besoin d'y revenir à chaque fois.
Il y a ce besoin de revenir, mais il y a un endroit, est-ce que vous y êtes revenu? Vous en parlez au début du livre, ce lieu où vous avez assassiné un arbre, le contexte.
Ah, le contexte, ça c'était dans l'enfance. J'habitais, quand j'étais enfant, en lisière d'une forêt. Et comme je l'expliquais, je m'échappais souvent pour construire des cabanes. Et un jour, j'ai trouvé un magnifique chêne, très vieux, très ancien, creux. Ce creux qui ouvrait sur une petite ouverture au niveau du sol. Et le creux du chêne montait en fait jusqu'à sa cime. Et sur la cime, une ouverture permettait d'accéder aux branches. Et je me suis dit, quel endroit génial pour fabriquer une cabane. Et donc j'ai commencé à gratter un petit peu l'intérieur du tronc, pour agrandir un petit peu l'ouverture, et je m'éclairais à l'époque avec une bougie. Et un jour j'ai oublié la bougie dans l'arbre. Et j'y suis revenu quelques jours après, et l'arbre était brûlé, tombé, ouais. Par bêtise.
Tourderie, négligence,
voilà. Et en fait, je me suis rendu compte que j'ai assassiné un arbre.
Ouais.
Et ça a été l'horreur absolue. Et ce lieu où j'avais cette fameuse cabane n'existe plus aujourd'hui, puisque c'est devenu un quartier résidentiel. Ouais. Donc, l'arbre était condamné quelque part, mais ça fait mal au cœur, effectivement, de se dire qu'on a quelque part assassiné un arbre.
Ouais.
Donc voilà, c'était un peu, voilà, mon traumatisme d'enfance, d'avoir tué un arbre par bêtise, tout simplement.
Et est-ce qu'on peut dire que ce livre lui est dédié?
Ouais, oui, oui, ben, bien sûr. Oui, tout à fait. Un chêne magnifique, effectivement. Là, j'en garde un souvenir ému. C'est ça, en fait, ce drame, en fait, pour moi, c'était une manière aussi de dire, mais voilà, j'ai fait du mal à la forêt, ben maintenant, j'essaie de rendre. Et rendre comment? Tout simplement, en racontant la beauté de la forêt. Voilà, c'est peut-être une manière de se rattraper quelque part, on va dire.
La caresse des arbres, signé Gilles Kerlock, aux éditions Librairie Social Club, dans la collection Palarbre, donc à retrouver à caractère à Mont-de-Marsan et à la Louve, à Saint-Sevé, diffusé également par le réseau des éditions Came. Diffuseur des livres du Grand Sud-Ouest.
MDM. On n'a pas inventé la radio, on l'a juste améliorée. MDM.